Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures dont vous commencez à connaître le programme. Bonne humeur et découverte pour vous. Croche-pattes Vislard et haine recuite pour eux. Depuis la rentrée, chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture. J'ai un seul sera élu chroniqueur du jour, un seul triomphera de ses rivaux par le talent, la perfidie ou les deux combinés et pourra donc s'exclamer à la face du monde, tel Pavarotti devant la Scala de Milan en délire.
Vincero.
Exactement. On l'a en stéréo. Pour déposer la prestigieuse couronne sur la tête du vainqueur, ma complice de toujours, ma souffre-douleur de parfois, dont il se murmure qu'après 8 ans de célibat non choisi, elle aurait enfin rencontré quelqu'un.
Il a 50 ans, il va être papa, mais...
Ah oui, bon, enfin, c'est mieux que rien. Bonjour Eva Rock.
C'est pas mal, écoutez.
Pourquoi pas?
Bah oui.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé. Exactement. Ou sur les écrans ce soir, mais d'abord, accueillons notre invitée d'honneur cet après-midi. Même si elle a tourné la page de l'opéra, sa voix magique résonne encore dans les travées du Metropolitan Opera de New York. 2012, j'y étais, c'était pas dégueu pour user d'un euphémisme. Bonjour Nathalie Dessay.
Bonjour.
Depuis 5 ans maintenant, vous avez quitté le lyrique pour explorer mille et un projets. Aujourd'hui, vous nous présentez un disque où vous revisitez le répertoire de Nougaro. Pardonnez mon inculture vocale totale, mais pour passer de soprano coloratour, c'est-à-dire spécialiste des aigus, aux chansons de Claude Nougaro, un homme qui chantait, qui plus est assez grave, c'est pas un peu l'équivalent d'un grand écart facial en gymnastique?
Si, je suis extrêmement souple.
Eh bien, ça commence fort.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, je chante pas du tout avec ma voix d'opéra.
Ça n'a rien à voir.
J'ai dû réapprendre, en fait. Désapprendre quelque chose pour réapprendre autre chose.
Oui.
Alors, ça fait 2 ans que je prends des cours de chant pour chanter autrement,
voilà.
Précisément.
C'est là que je voulais aller, c'est-à-dire que Nathalie Dessay prend des cours de chant. Eva,
alors,
vous pensez
que c'est
possible?
Moi, quand je pose la question à la grande Sophie, parce que je lui demande si elle prend des cours de chant avant ses concerts, vous vous moquez de moi, mais là, à Nathalie Dessay, ça vous ennuie pas de lui demander?
Sans manquer de respect à la grande Sophie que j'adore et que je vais aller voir en concert bientôt, en termes de technique vocale, je pensais qu'aucun prof pouvait donner des cours à Nathalie Dessay. On va parler de cet album, Nathalie Dessay, qui s'appelle donc Sur l'écran noir de mes nuits blanches. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. Face à vous, Nathalie Dessay, une fan, une vraie. Comme vous, elle rêvait d'une carrière de cantatrice. Hélas, au lieu de bosser pour intégrer comme vous le conservatoire, ado, elle passait ses matinées à bouffer des Raiders devant le Club Dorothée. Alors forcément...
Dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques.
Elle n'est pas devenue la reine du chant, mais la reine de l'environnement. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'expert écologie d'Europe 1. Aujourd'hui, vous sabrez le champagne, bio j'imagine, car une zone protégée vient d'être classée parc naturel. C'est pas fréquent, la dernière fois c'était en 2012.
Absolument, zone de forêt de Champagne et de Bourgogne. Effectivement, c'est le 11e parc naturel en France. On va aller faire un petit tour, ça donnera une destination de week-end aussi ou de vacances.
À ses côtés, Nathalie Dessay, vous étiez une diva au sens strict du mot. Lui, il l'est au sens figuré. Ivre de lui-même depuis qu'il a récupéré l'émission littérature d'Europe 1 le week-end, Nicolas Carreau ne supporte pas qu'on le compare à quelqu'un de moins connu que lui. Et à ses yeux, peu de personnes sont plus connues que lui. Un homme au faux air de Nicolas Bedos s'avance fébrilement vers le micro.
Je signale d'abord que c'est Bedos qui a des faux airs de Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Ça va les chevilles?
Ça va.
Vous êtes le monsieur livre d'Europe 1 et cet après-midi, vous nous emmenez pas loin du Metropolitan Opera de New York où chantait jadis Nathalie Dessay à Central Park.
Oui, et je vais vous parler d'un grand écrivain américain qui n'a jamais été publié.
Et quel rapport avec Central Park? Les gens ne prennent pas pour un con.
Parce qu'il écrit dans Central Park.
Ah, mais voilà, j'aime bien vendre un peu la mèche avant. Merci Nicolas Carreau, voilà pour le programme L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Nathalie Dessay qui nous accompagne cet après-midi. Dans quelques jours, sort sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, comme son nom l'indique. Vous y reprenez des standards de Claude Nougaro avec le pianiste Yvan Cassa.
Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
Vous expliquez, Nathalie Dessay, que vous avez voulu explorer la part féminine de Nougaro. Elle m'avait échappé, sa part féminine. C'est quoi?
Non, détrompez-vous. C'est un homme qui a magnifié et chanté la femme comme personne, mais avec justement beaucoup de tendresse et de féminité, je trouve.
Vous étiez fan depuis longtemps?
Oui. depuis toujours.
Vous l'aviez rencontré ?
Oui, oui, mon mari lui a même fait une daube, qu'il a bien apprécié.
Ça, ça crée
bien. Oui, ça c'est un scoop, hein, j'ai jamais dit à personne.
Scoop Europe 1, le mari de Nathalie Dessay a fait une daube à Claude Biarrot. Ça a été compliqué, vous disiez en amorce de cette émission qu'il a fallu désapprendre à chanter, parce qu'effectivement la voix d'opéra n'a rien à voir avec la voix qu'on utilise dans la variété. Ça a été dur pour vous ? Vous êtes
très
surpris ?
Dur.
Plus dur que vous ne l'imaginiez ?
Oui, parce que je me disais, comme tout un chacun, oh, qui peut le plus peut le moins.
Bah, oui, c'est ce qu'on se dit.
Ben non, en fait ça ne marche pas comme ça. Parce que le corps est entraîné pour un certain geste et il faut déprogrammer ce geste-là pour en faire un autre.
Moi, je me souviens effectivement, à l'époque, il y avait des concerts caritatifs où on mélangeait chanteurs lyriques et c'était U2 qui avait Bono et Pavarotti. Et je me souviens, moi, j'étais pas fan d'opéra, je m'y connais pas très bien, mais j'écoutais de l'opéra quand j'étais jeune et j'attendais beaucoup Pavarotti. Et c'est vrai que Pavarotti chantant U2, ben, ça marchait pas très bien.
C'était ben compliqué. Non, oui, c'est compliqué
et
parce que c'est pas
possible.
Style.
Le mec, il sait chanter Nessun Dorma, il arrive pas à chanter.
Non, et puis il faut apprivoiser le micro.
Et le rythme et aussi, peut-être, la rythmique.
Ah, bah, alors ça, c'est encore autre chose. Justement, ne pas être dans quelque chose de carré, de précis, solfégiquement.
Nicolas Carreau.
Est-ce que ça veut dire que vous avez du coup perdu vos capacités à chanter du lyrique ?
Non, parce que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et d'ailleurs, je chante toujours de manière lyrique, puisque je fais toujours des récitals avec Philippe Cassard. Donc, il faut préciser que je travaille avec des mecs qui s'appellent Cassard.
Ils s'appellent Cassard, mais pas pareil.
Ils ne sont pas de la même famille, rien du tout, rien à voir. Je les ai présentés l'un à l'autre l'autre jour. C'était très drôle, parce que Monsieur Cassard, je vous présente Monsieur Cassard. Donc, c'était assez drôle. Mais donc, avec Philippe, donc l'autre Cassard, nous faisons des récitals de leader et mélodie avec une voix donc lyrique.
Elle garde ses deux voix sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches. L'album sort le 15 novembre. Nathalie Dessay, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, elle est la super méga copine d'Eva Rock. Sa BFF, Best Friend Forever. Ensemble, sous couvert de préparer cette émission, elle cancane à la machine à café, bitchant allègrement sur certaines journalistes de la rédaction dont les oreilles doivent siffler. Vous voyez de qui je veux parler ?
Bien foutu, mais pas de tête.
Oh, Eva, je vous en prie ! Vous avez une très mauvaise influence sur Anne Le Gall, notre conscience verte, qui nous parle aujourd'hui de la création du 11e parc national français. À quoi ça sert un parc naturel et comment ça marche ? A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Nathalie Dessay, venue nous présenter un nouvel album sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, album qui sortira le 15 novembre, où vous revisitez le répertoire de Claude Nougaro. Comment vous avez choisi les chansons ? Parce que les belles chansons de Nougaro,
ah bah elles sont toutes
pas.
C'est
est-ce que vous les avez choisies par goût ou par celles que vous pouviez chanter ?
Non. D'abord par goût. Je fais toujours les choses d'abord par goût et d'abord par désir. Il y en a tellement que j'aurais voulu mettre sur cet album et qu'on n'a pas pu mettre parce qu'il fallait se restreindre. Mais c'est vrai aussi qu'au départ, je me disais « Oh là là, mais il y a plein de chansons qui sont vraiment très masculines, c'est vraiment un homme qui parle, et pas n'importe quel homme, Claude lui-même. Donc ça, je ne peux pas chanter, je ne peux pas me permettre, etc. »
Pardon, j'y pense, vous n'avez pas chanté « Sous mon balcon, je suis sous mon balcon ». Ça aurait été, vous auriez pu mettre en bonus track.
Oui, oui, mais par exemple, je n'ai pas chanté, mais ce que j'ai décidé entre-temps, c'est peut-être dans le spectacle de mettre même des chansons masculines comme Une petite fille, ou comme, je ne sais pas, alors Splash, ce n'est pas spécialement masculin, mais quand même, à un moment, il dit mon garçon. Donc, mais ce n'est pas grave.
Il y aura des surprises sur scène.
Oui, oui, il y aura des choses comme ça.
Parce qu'il y a une tournée qui arrive, Eva, on peut
le dire.
Il y a
une tournée à partir du printemps 2020, on va donner quelques dates au fur et à mesure de l'émission. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on redécouvre des chansons qui sont moins connues du répertoire de Nougaro.
Oui.
Et j'en ai découvert, alors que j'adore Nougaro depuis de longues années. Mais Tendre, par exemple, qui est une chanson absolument magnifique.
On l'a oublié.
Moi, je la connais.
Sur un thème de Toots Thielemans.
Exactement. Sublimissime.
Ouais. On continue de parler de ce très bel album. Mais il est temps d'entrer, les amis, dans le vif de la compétition avec la BFF d'Eva Rock. Toutes les deux, elles passent leur journée à glousser derrière leur écran d'ordinateur. Franchement, mesdames, tâchez au moins d'être un peu discrètes. Quand vous commandez vos sextoys sur Amazon, tâchez au moins d'élaborer un langage codé un peu plus codé.
Anne, on recevra nos plantes mardi. Il y a trois petites fougères, un grand yucca pour mettre derrière toi et un petit bonsaï. Enfin, je crois, je sais plus.
Oui, Anne Le Gall, entre deux commandes de grand yucca et de petits bonsaï, peut-être auriez-vous l'obligeance de nous livrer votre chronique sur ce nouveau parc naturel qui vient d'être créé en France. Et c'est pas tous les jours.
Effectivement. Elle en pleure, elle peut même pas avoir ces notes.
Je pleure de rire, c'est vrai. Allons écouter la musique de la nature, la musique des arbres. On va partir dans les parcs naturels. On en comptait 10 jusqu'ici en France. Vous connaissez au moins deux noms, le parc de la Vanoise,
Le Mercantour.
Plus ancien. Voilà. Alors Vanoise, c'est 1963. Après, il y a eu le Mercantour, les Cévennes, le parc des Pyrénées. Et demain va donc naître le parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne. Il faut imaginer donc un paradis naturel de 240 000 hectares à cheval sur le département des Côtes d'Or et de Haute-Marne. Donc c'est une zone de forêts, de frênes, de hêtres, parcourue par 7000 km de rivières. C'est un site assez peu connu du grand public et pourtant, ces forêts, à 80%, existaient déjà au moment de la Révolution française.
Et ça arrive souvent qu'un territoire soit classé comme ça, parc naturel ?
Eh bien non, c'est un petit événement quand même, puisque le dernier parc qui a été créé, c'est celui des Calanques en 2012, il y a 7 ans. Et pour créer un parc, il faut quand même 12 ans de démarche. En tout cas, c'est ce qu'il a fallu pour celui-ci. Donc, territoire qui a été choisi après enquête publique, après avis du Conseil d'État. Il a été choisi en raison de sa biodiversité exceptionnelle. Donc, ce sont des forêts de feuillus très anciens qu'on peut parcourir grâce à 2000 km de sentiers de randonnée. Et du côté de la faune, eh bien, on trouve dans ce parc des cerfs, des sangliers, des chevreuils et des animaux plus rares, comme par exemple les cigognes noires ou alors des chats sauvages, des chats forestiers. Il y a aussi des chouettes et des papillons très, très particuliers. C'est tellement exceptionnel qu'un centre de recherche sur la forêt va d'ailleurs être créé dans ce parc naturel et ce sera unique en Europe.
Mais alors, à part faire de grandes balades, de belles randonnées avec les enfants où on bouffe des babybelles et où les enfants crient « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» À quoi ça sert un parc naturel ?
À quoi ça sert ? Ça sert à protéger la biodiversité pour les générations futures. Le parc le plus ancien du monde date de 1872. C'est Yellowstone aux États-Unis. On est bien content, 5-6 générations plus tard, d'en profiter, tant sur le plan touristique que scientifique. Donc là, en fait,
Trump réfléchit, hein, il va peut-être faire un puits de pétrole là-bas. Il hésite.
Peut-être brûler une partie.
Pourvu que non, on croise les doigts. Donc cet espace de parc naturel en France sera désormais géré par un établissement public. Et donc, avec les collectivités locales, il va y avoir des règles établies pour la protection de ce parc. Donc, par exemple, on va avoir des règles pour la chasse, des règles pour la coupe du bois, qui sera d'ailleurs réduite de 8%. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, puisque les forestiers, les chasseurs, les agriculteurs, parfois, craignent que la zone devienne surprotégée. Mais pour la région, en tout cas, c'est un beau label touristique. On estime que ce parc accueillera chaque année 100 000 visiteurs et ça profitera donc aux 127 communes qui sont inscrites sur ce territoire.
Merci Anne Le Gall. Nathalie Dessay, vous êtes plutôt urbaine ou vous aimez la campagne ? Je crois que vous habitez une maison, vous êtes dans la nature, non ?
Disons que j'ai un jardin.
Mais c'est la nature.
Non, moi j'aime la mer.
Ah, c'est la mer, votre truc. Et bien, la prochaine fois, Anne Le Gall, vous ferez un sujet sur les calanques de Cassis, plutôt.
Je ferai un parc naturel.
Mais je suis ravie
marin.
De savoir qu'il y a un parc naturel de plus en France.
De belles balades en perspective.
Et il paraît que vous aimez bien avoir vu sur la nature et vous laisser réveiller par le soleil aussi. Vous n'avez pas de volet. J'ai lu ça dans une interview Paris Match, non ?
C'est vrai.
Vous l'avez confié à Paris Match il y a quelques années.
Et si c'est possible avec la vue sur la mer, c'est encore mieux.
Encore mieux.
On le note. On vous réservera une chambre avec vue sur la mer la prochaine fois. Votre chronique, Anne, aura-t-elle tapé dans l'œil de nos auditeurs ? Et notre invitée réponse peu avant 18h. Son nouvel album où elle revisite Nougaro sort le 15 novembre. Nathalie Dessay passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, une autre voix exceptionnelle, celle de Nicolas Carreau, recalé de peu au conservatoire malgré son inoubliable reprise de
« Libéré, délivré ».
Nicolas Carreau vous fait découvrir un auteur qui vous permettra de briller dans les dîners en racontant son incroyable parcours. Pendant 5 ans, il a écrit des nouvelles sur demande. Sur demande de qui ? Eh bien des passants, puisqu'il était installé dans Central Park. Nicolas nous raconte juste après le cinéma. Claude Nougaro par Nathalie Dessay sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une compétition cruelle pour les journalistes d'Europe 1, mais douce pour vos zygomatiques, grâce notamment aux interventions toujours décisives d'Eva Rock. Intervieweuse politique hors pair qui, hier, me trouvant un peu mou dans mes questions à François Baroin, s'est dit à un moment « Attends, on va arrêter de le laisser dérouler tranquille, je vais poser la question qui tue, qui va le désarçonner ». Et effectivement, ça a failli le désarçonner.
J'adore ça, j'adore mon pays, j'adore le débat. Et je ne suis pas sûr que je me dirais à la fin, une fois que j'aurai terminé de compter mes points retraite, que j'aurais raté ma vie si je ne suis pas président de la République. Voyez,
Oui, mais quand même.
Oui, mais quand même. Dans l'histoire des intervieweuses politiques, il y aura eu Christine Ockrent, Anne Sinclair, Léa Salamé. Désormais, il faudra compter sur Eva Rock. Tremble, Léa. Aujourd'hui,
mais vous avez
changement.
Une mauvaise foi terrible.
Oui, c'est vrai, d'une mauvaise foi terrible, néanmoins.
Parce qu'il y avait, il y avait autre chose après, quand même.
Non, il n'a rien dit derrière.
Oui, c'est ça.
Non, non, non.
Il a un peu précisé sa réponse.
Aujourd'hui, changement d'univers. On est ravis d'accueillir Nathalie Dessay pour la sortie le 15 novembre prochain d'un album consacré aux reprises de Claude Nougaro. Vous avez mis fin à votre carrière lyrique en 2013, c'était il y a déjà 5 ans, moi j'ai l'impression que c'était hier.
6 ans même.
6
si
ans même, 6 ans. Ça, exactement, c'est moi qui compte mal, ma salle on pourra le mettre demain, c'est très bien. Vous avez sillonné dans votre carrière les plus grands opéras du monde. Est-ce qu'il vous arrive d'être nostalgique des tournées internationales, du faste qui va avec ça?
Du tout.
Alors, expliquez-nous pour moi, parce que les gens, ça les fait rêver. Ils se disent, cantatrice d'opéra, surtout être number one comme vous, c'est-à-dire que dans tous les plus grands opéras du monde, on imagine suites de luxe.
Oui, non, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas des suites de luxe, c'est des appartements qu'on se loue nous-mêmes, premièrement.
D'accord, mais c'est bien.
Et deuxièmement, c'est une vie extrêmement solitaire, toujours loin de chez soi, et j'allais dire une vie presque monacale. Donc moi, j'ai coutume de dire que pendant 30 ans, parce que j'ai fait 23 ans de carrière, mais avant ça, j'ai appris à chanter. Donc pendant 30 ans, j'ai vécu au Carmel. Donc je tiens à signaler que j'en suis sortie depuis 6 ans. Et ça fait beaucoup de bien.
Mais là, il va y avoir une crise des vocations si vous dites ça. Qui va vouloir devenir chanteuse lyrique si même Nathalie Dessay dit que finalement, c'est une vie de
carmélite. Ah, oui. Senior. Oui. Chez les garçons comme chez les filles.
Est-ce que ça signifie gagner moins d'argent, la carrière que vous faites maintenant, qui est une très belle carrière de chanteuse de variété
et
de jazz
comédienne.
Aussi, et de comédienne, qui est votre passion initiale, voilà. On va en parler longuement. Oui. Mais est-ce que ça signifie gagner moins d'argent que chanteuse lyrique?
Ah clairement, oui.
Mais ça gagne combien une chanteuse lyrique? On n'a aucune idée, hein, très franchement.
Alors,
on
les salaires
des footballeurs sont dans les journaux.
Moi, à mon époque, ça, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on appelait le top fee, c'est-à-dire le cachet le plus haut, c'était autour de 15 000 euros pour une soirée.
15 000 euros la soirée. Mais, et vous chantez combien de fois? Parce que...
On chante en principe entre 5 et 8 fois quand on fait une production. Mais il y a tout ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire tout ce qu'on a dépensé comme argent pour apprendre à chanter déjà. Parce que ça, c'est des cours de chant à n'en plus finir. C'est des cours aussi avec des pianistes pour vous apprendre les rôles. C'est nous qui payons tous les frais. C'est-à-dire quand je vais à New York... C'est moi qui paye l'appartement que je loue pendant 2 mois.
Oui.
Donc tout ça, c'est des frais. Non, alors, j'ai très bien gagné ma vie, attention. Mais pour quelque chose que presque personne au monde ne sait faire.
Oui, évidemment.
À ce niveau-là.
Sur l'argent et la gloire, vous dites, il faut accepter de ne plus bien gagner sa vie, de ne plus être une star. Quand c'est fini. Vous croyez que les admirateurs de Björn Borg continuent à voir en lui une star? Moi, quand je dis aux amateurs d'opéra, maintenant je fais du théâtre, ils s'en fichent éperdument, ça ne les intéresse pas. Ça m'a vraiment surpris, cette citation de vous, parce que ça en dit long sur le côté puriste des amateurs d'opéra. C'est-à-dire que sortis de l'opéra, ils n'ont même pas envie de savoir ce que vous faites d'autre.
Non, ils n'ont pas envie. Mais c'est pas grave, d'autres ont peut-être envie.
Oui, non, mais vous avez conquis un autre public, certainement. Mais c'est plus le public qui vous suivait à l'opéra.
Non, alors il y en a quelques-uns qui sont des fidèles et que ça intéresse de voir un artiste évoluer, j'allais dire. Et puis la plupart des autres, vous chantez plus, non, on s'en fout.
Et en fait, par rapport à ce que vous venez de nous dire, on a l'impression que vous avez eu deux vies de chanteuse, la chanteuse lyrique et aujourd'hui la chanteuse qui chante Claude Nougaro, et deux vies au théâtre, ou en tout cas sur scène, la chanteuse lyrique aussi, mais qui joue, et puis aujourd'hui la comédienne à part entière, on peut vous voir dans La Légende d'une vie, la pièce de Stéphane Zweig. C'est comme si vous étiez, il y a une renaissance ou il y a une continuité quand même dans tout ce que vous avez fait?
Je dirais que c'est plus une renaissance dans le sens où c'est quand même pas le même métier. Jouer à l'opéra n'a rien à voir avec jouer sans musique. Parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile quand il n'y a pas la musique pour tout vous dicter. Vous dictez la moindre intention, le moindre rythme, la moindre intonation, on va dire presque.
Nathalie Dessay chante Nougaro aujourd'hui. L'album sort le 15 novembre. Le premier single, Danser sur moi, est déjà disponible. Nathalie Dessay, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, lui aussi, il chante à 16h. Lui aussi, c'est un mélomane. Mais comme c'est aussi l'expert littérature d'Europe 1 et qu'il a plusieurs T dans Télérama, c'est un mélomane chiant. Qui peut s'arrêter au milieu d'une chanson pour analyser les paroles si jamais la syntaxe le dérange.
Mes vieux chauffeurs, reprenez avec moi tout...
D'ailleurs, il y a une faute. Reprenez avec moi, ouais. Il s'est déjà expliqué là-dessus.
Dieu qu'il est relou, mais aussi passionnant. Nicolas Caro arrive pour nous parler d'un auteur américain pas comme les autres.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Chaque après-midi ici, on note les journalistes de la rédaction qui défilent au micro. Même principe qu'avec votre livreur de sushi. Bon chirashi bien frais, belle chronique intéressante. Vous donnez 5 étoiles en cas de maquis avarié ou de chronique douteuse. L'exemption tombe. Vous votez via Twitter. Et attention, la voix de notre invité arbitre compte triple. Aujourd'hui, c'est Nathalie Dessay qui nous accompagne pour la sortie de son album consacré à Claude Nougaro.
Mon pays, au Toulouse, au Toulouse.
Un album que Nicolas Caro, notre prochain journaliste en compétition, a trouvé formidable. Mais attention Nathalie, on ne le surnomme pas le Fayot machiavélique pour rien. Hier, avec François Baroin, il a même tenté le pot de vin.
Je vous le donne.
C'est vrai ? Vous allez avoir une bonne note.
Je ne l'ai pas fait dans cet objectif.
Bien sûr que non. Ça ne vous ressemblerait pas d'acheter l'invité avec un livre qui vous a...
D'ailleurs, il ne m'a pas donné ses points. J'ai récupéré le bouquin.
Il vous a... L'ordure absolue. Nicolas Caro, vous nous parlez ce matin d'un auteur américain dont le nom est encore inconnu chez nous.
Un écrivain un peu particulier. Il s'appelle Christopher Hermelin. Christophe Hermelin, si vous préférez. Il est américain, new-yorkais. Il a une trentaine d'années. C'est un écrivain, mais qui n'a jamais publié, en tout cas pas comme on l'entend. Un jour, il s'installe dans Central Park, sur un banc, avec une machine à écrire, et il accroche un petit panneau à côté de lui pour indiquer aux promeneurs qu'il peut leur écrire une histoire. Alors vous donnez quelques détails sur votre vie, vous n'êtes pas obligé, et puis il vous écrit une nouvelle sur une demi-feuille tapée à la machine, et donc unique, le tarif est libre.
Alors tarif libre, mais si on veut une histoire, il faut aller à New York.
Et non, puisque Hermelin a modernisé son concept, on peut lui commander une histoire en ligne. C'est ce que j'ai fait il y a longtemps, il faut plusieurs mois pour recevoir son histoire, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de demandes.
Vous avez donné quoi comme indication ?
Alors, vous allez vous foutre de moi, mais
c'est possible, allez-y.
Je voulais l'histoire d'un type qui est fan des écrivains américains Scott Fitzgerald, Hemingway et David Foster Wallace. J'ai attendu, et j'ai donc reçu une jolie petite enveloppe avec dedans une demi-feuille tapée à la machine et une nouvelle. Et il a écrit une histoire pour chacun, donc c'est forcément un peu long. J'ai attendu, je crois, 6 mois pour avoir mon histoire. Mais pour lui, c'est une manière d'entretenir une relation très particulière avec les lecteurs, comme les plus grands auteurs, finalement. C'est ce qu'il m'a expliqué quand je l'ai contacté, à New York.
C'est quelque chose que beaucoup d'écrivains doivent attendre longtemps. Souvent, quand vous lisez un écrivain que vous aimez, vous pensez « Oh, il l'a écrit juste pour moi ». C'est comme si vous aviez une connexion avec eux. Moi, j'ai triché un peu. Maintenant, j'écris pour une seule personne, juste pour vous. C'est un super moyen de créer une connexion rapide avec quelqu'un. Et aussi, ce qui est génial pour moi, c'est que quand je fais mon café ou que je me balade dans un parc, je réfléchis à l'une de ces commandes qu'on m'a faites. C'est comme si j'avais une conversation avec eux au-delà des frontières. Parce que vous savez, j'ai des commandes d'Italie, de Singapour, de Thaïlande et de partout dans le monde. Et donc, je me sens vraiment chanceux pour ça.
Alors, Nicolas Caro, c'est déjà le concept est génial, mais deux questions se posent importantes. La première, avec quel argent avez-vous payé ce livre ? Est-ce que c'était avec vos deniers personnels ou l'argent d'Europe 1 ? Et deuxième question,
j'ai donné 25 euros.
25 euros, ouais. C'est pas cher payé.
Je me suis dit, c'est le prix d'un livre.
Ce Nicolas Caro. Oui, c'est le prix d'un livre, c'est vrai, c'est pas faux. Mais là, c'est un livre unique quand même, donc vous auriez pu faire un petit geste. Bon, bref.
Et surtout, pas beaucoup d'argent, vous savez,
que...
je suis journaliste.
Que raconte votre histoire ?
Alors, c'est l'histoire d'un type qui habite à Paris et qui est fan de Fitzgerald, Hemingway et Foster Wallace, ça c'est bon. Il découvre un secret, une astuce pour rencontrer des écrivains morts. Il faut avaler la première page d'une édition originale de l'auteur en question. Il faut chercher, mais ça se trouve. Et ensuite, il faut boire une bouteille de bourbon cul sec. Ça, c'est déjà plus compliqué. Je ne sais même pas si on y survit. C'est peut-être ça le truc, d'ailleurs. Enfin, c'est de la littérature. Et donc, ça marche. Le type se retrouve dans un bar avec ses trois écrivains. La suite, je ne vous la donne pas. C'est l'intérêt de ce concept. C'est un truc très égoïste aussi. À chacun son histoire. Et pour trouver Christophe Hermelin, vous tapez sur Google CD Hermelin, H-E-R-M-E-L-I-N. Mais il y a beaucoup d'attentes. Je peux vous le dire.
Nathalie Dessay, ça a l'air de vous intéresser ce concept-là.
Mais est-ce que vous savez où il est dans Central Park ?
Parce que Nathalie va aller directement.
Bah oui, moi je vais y aller.
Je ne sais pas exactement.
Mais c'est toujours le même endroit ou il change ?
J'imagine qu'il change, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas.
Anne Le Gall, je crois que vous avez une question vache. Pour désarçonner votre collègue.
Ah, ça existe encore, les questions vaches ?
Ça existe encore.
Puisque vous êtes critique littéraire, est-ce que ça vous a donné envie de le publier ?
Comme je suis pas éditeur, je peux pas le publier, mais en revanche j'ai envie qu'il soit publié et très très connu et très très célèbre, comme ça je pourrais dire moi j'ai une nouvelle inédite de Hermelin. Je l'ai fait un peu comme ça aussi, je dois l'avouer.
Égoïste jusqu'au
toujours
bout.
L'esprit intéressé et de Nicolas Caro. Son nouvel album consacré au répertoire de Claude Nougaro sort le 15 novembre. Nathalie Dessay passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, suite à sa victoire surprise et historique hier dans le quiz qui l'opposait à François Baroin, vous avez été nombreux à nous écrire pour nous dire qu'il était intolérable de poser des questions si faciles à Eva Rock et si difficiles à l'invité. Message reçu 5 sur 5. C'est pourquoi aujourd'hui le quiz sera un duel vocal, très simple, sur le non moins simple air des clochettes de l'Acmé. Nathalie, vous lui montrez ? Voilà, Eva, c'est simple, vous avez 2 minutes pour vous chauffer la voix.
Moi, je peux plus le faire.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, c'est l'ex-cantatrice Nathalie Dessay qui nous accompagne pour la sortie le 15 novembre d'un album où elle reprend Nougaro.
Une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la Turte et veut prouver que jouer comme un fou. Aussi vite que moi, mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur. Allô, c'est Suzy, ça fait 2 fois que j'appelle.
Très bel album, Nathalie Dessay. Et un album, c'est bien, mais la scène, c'est encore mieux. Eva, on aura des dates en 2020.
En 2020, alors pour l'instant, vous êtes toujours sur scène, mais pour une pièce de théâtre, La légende d'une vie de Stefan Zweig. Et effectivement, le 20 décembre, pardon, il y a une date supplémentaire, Nathalie Dessay, vous allez chanter Broadway à la scène musicale. Et puis effectivement, depuis, à partir du printemps, ce sera sur l'écran noir de Menu Blanche avec Yvan Cassard au piano et toute une formation autour de vous. Il y a des dates partout en France, on vous mettra tout ça évidemment sur europe1.fr.
Je reviens sur la date du 20 décembre prochain, vous chanterez des comédies musicales de Broadway à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Lors de cette représentation, vous rendrez notamment hommage à Michel Legrand, avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous retenez de Michel Legrand? Vous dites de l'œuvre de Michel Legrand qu'elle vous émeut autant que celle de Mozart.
Oui, c'est-à-dire que Michel, c'est vraiment un génie de la mélodie et de l'harmonie, au même titre que Mozart, oui, c'est vrai. Et c'est aussi un touche-à-tout, et c'est ça qui m'émeut particulièrement avec lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient du classique, qui a fait ses classes avec Nadia Boulanger, entre autres, et qui a commencé le piano à l'âge de 4 ans, et qui a fait toutes ses classes d'harmonie, de contrepoint, de composition, et qui ensuite s'est dirigé vers l'orchestration de musique de film, les chansons, le jazz, la musique classique aussi, puisqu'elle a composé un concerto pour violoncelle, un concerto pour piano, et qu'il m'a composé notamment une espèce d'oratorio pour une voix et pour grand orchestre. Enfin, c'est quelqu'un qui s'arrêtait jamais à ce qu'il savait faire. Et de ce point de vue-là, c'est un être extrêmement libre. Et c'est ça qui m'a appris, probablement.
Le 20 décembre, vous allez chanter, j'ai lu, avec votre fille, Naïma Naouri. Qu'est-ce que ça fait de partager la scène avec sa fille? Qui est le plus stressé, vous ou elle?
Je sais pas, moi je suis toujours stressée. Donc de toute façon,
vous êtes toujours stressée?
Oui, extrêmement stressée. Ça m'aura bien gâché la vie, cette histoire de trac, en tout cas.
Le trac, il est le même quand on chante du lyrique et quand on reprend Nougaro, ou ça n'a rien à voir aussi?
Alors, il y a toujours l'angoisse de se tromper dans les paroles. Ça, de tout temps à jamais. Et en plus, quand on chante du lyrique, il y a le trac de ne pas arriver à faire la note correctement, de ne pas chanter assez bien.
Ça n'arrive jamais.
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'il peut arriver que vous ayez un chat dans la gorge.
Et vous êtes arrivé un soir à l'opéra de ne pas sortir une note?
Ouais, enfin, oui, d'avoir un graillon, je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr que ça arrive.
Alors Nathalie Dessay, vous disiez avoir en partie arrêté l'opéra parce que c'était stressant. Je suis désolé, mais vous allez à présent replonger dans l'angoisse de vos premières auditions, puisque voici venir le duel qui va vous opposer à Eva Rock, la Maria Callas des Alpes-Maria. Maritime. Il paraît que lorsque vous étiez soprano coloratour, vous atteignez le contre-la. Eh bien, elle est capable d'atteindre le contre-si. Bon, il lui faut un peu de temps, mais si on a la patience... Quand c'était ça, Eva, que vous aviez tenté d'atteindre le contre-si?
Pourquoi
avec André Manoukian,
je crois. On me fait chanter.
C'était ça, hein, oui. Alors nous y voilà, le face-à-face vocal que j'annonçais, l'air des clochettes n'étant pas le plus simple, et comme Nathalie n'a pas pratiqué le chant lyrique depuis un moment, Eva, vous êtes polie, vous prenez la main, allez-y. Bon, non, je déconne, je suis taquin, mais pas tortionnaire.
Il faut pas.
En honneur de votre album sur l'écran noir de Minuit Blanche, vous chantez Nougaro. Le thème du jour sera plutôt les reprises. C'est parti, la première de vous deux qui trouve marque un point. On cherche donc un tube.
D'accord.
Ça sera que des tubes, hein, donc c'est facile.
Il faut qu'on trouve l'interprète.
Il faut retrouver l'original de ce que nous allons entendre ici. Nathalie Dessay, Eva Rock, voici une version country d'un titre extrêmement connu. Là, le groupe, c'est The Pigs with John Williamson, mais qui chante l'original de
ça? She's up on him, he up on her, don't pay him any attention, 'cause she cried her tears after 3 good years, you can't be mad at her.
Beyoncé. Bonne réponse, Single
Ladies. C'était loin de l'original, effectivement. Je préfère Beyoncé quand même.
Oui. C'est assez spécial. D'ailleurs, c'est que le début du quiz. Il y a d'autres choses encore plus réjouissantes. Une reprise un peu plus originale encore. Voici le Ukulele Orchestra of Great Britain. Quel tube interprète-t-il? J'ai la réponse sous les yeux, je ne le vois pas. Je ne m'entends pas.
C'est dans les aigus là qu'il faut trouver le truc ou pas?
Ah
Sweet Dreams.
Sweet Dreams. Nathalie Dessay. Effectivement, elle est plus rapide que vous, Eva. Sweet Dreams de Eurythmics, effectivement. Le début, on aurait plutôt dit un film de Kusturica, mais bon. Toujours plus étonnant, une chanson très connue maintenant, interprétée avec des fax.
Des fax.
Quel est l'original ?
Mamma Mia ?
Non.
Bohemian Rhapsody.
Ah oui, oui,
Nicolas Garraud, vous ne jouez pas dans le quiz, mais vous répondez.
C'est Queen, bien sûr.
Queen, avec effectivement Freddie Mercury.
Ouais, c'est pour ça que j'ai dit
c'était
Mamma Mia.
C'était Bohemian Rhapsody, interprété par des fax. Après, qui a eu l'idée
de prendre
des fax pour interpréter Bohemian Rhapsody ?
Est-ce que vous pouvez expliquer aux plus jeunes auditeurs ce que c'est qu'un fax, surtout ?
Et qui est Queen ? Non, mais je n'aime pas ce monde-là, je suis obligé d'expliquer ce qu'est un fax et qui sont
Queen.
Oui,
ça, parce qu'il y a eu un film.
Oui, c'est vrai que maintenant, tous les jeunes écoutent Queen, maintenant, ils redécouvrent ça. En revanche, ils n'ont pas redécouvert les fax. Cette fois, vous devez me trouver l'interprète et la chanson, car vous connaissez les deux.
Je danse pieds nus sous un soleil rouge, les dieux à
Jeanne Masse. Jeanne Masse.
Doucement, pas du tout Jeanne Masse.
Non. Rose quelque chose.
Rose Laurence. Un demi-point
partout.
Mais qui chante ? Quelqu'un que vous connaissez très très bien.
Quelqu'un que je connais très très bien.
Bah, enfin, moi, dans les histoires que j'invente, dans le passé que je vous prête et les relations que vous auriez dans votre jeunesse. Dick Rivers, effectivement, c'était lui.
Excellent.
Oui, j'ai eu une liaison avec Dick Rivers pendant des années, Nathalie de
Sécheron. Fictive, évidemment, mais.
Dans l'esprit romancé.
Le duo Brigitte fait une très belle reprise. Laquelle ?
C'est George Michael ? Non.
I want your sex, the job breaker. Un petit dernier, dans le grand n'importe quoi, quel est ce titre interprété à l'aide d'un jouet pour chien qui fait pouet pouet?
Ça, c'est Queen aussi, non?
Oui, c'est encore Queen. Bonne réponse de Nathalie Dessay. C'est encore Bohemian Rhapsody dans sa version la plus pure, la plus belle, probablement interprétée donc par un jouet pour chien qui fait pouette pouette.
Qui a fait cette version?
Vous savez, c'est con, mais je pense que c'est compliqué aussi à faire chanter Bohemian
Rhapsody.
Oui,
justement, compliqué pour un tel résultat, ça vaut vraiment pas le coup.
Exactement. Qui remporte le quiz? C'est Nathalie Dessay qui remporte le quiz. Et haut la main, son album hommage à Nougaro sort le 15 novembre. Nathalie Dessay, l'invitée d'Europe 1 cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, d'après vous, alors qu'on va bientôt passer à la 5G, y a-t-il encore un village de France qui ne soit pas raccordé à l'eau potable ?
Développez
votre pensée, vous pensez que c'est vrai ou pas ? Vous pensez que ça existe, un village pas raccordé à l'eau potable ?
Et oui, je sais que c'est vrai en plus.
Eh bien oui, il restait en France un village qui n'était pas raccordé à l'eau potable, il va l'être enfin, ça se passe près de Cambrai. Notre correspondant sur place nous raconte juste après Marc Lavoine, morceau d'amour sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures à la frontière du savoir et du rire. 2 heures aussi au plus près de vous en région. Car n'oubliez pas le nouveau slogan d'Europe 1. Eva, s'il vous plaît, avec de la conviction.
Écoutez le monde changer.
Non, pas écoutez le monde changer. Avec une musique à la con. Écoutez le monde changer. Avec la voix de Barouin. Enfin, j'essaye.
Ouais.
Et pour ce qui est d'écouter le monde changer, on est vraiment en plein dans cette ligne éditoriale aujourd'hui avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant dans les Hauts-de-France, direction Saint-Lémarquion, près de Cambrai, dans le Nord. Donc, un petit village qui est sans doute l'un des derniers à ne pas être raccordé au réseau potable. Comment est-ce possible en 2019 ?
Vous imaginez bien que ça ne date pas d'hier. En fait, ça date de la reconstruction d'après la Première Guerre mondiale, figurez-vous. À l'époque, dans le petit village, on avait creusé une vingtaine de puits. Les habitants s'y étaient raccordés avec des systèmes de pompage. Les 350 habitants ont donc chacun leur petite station de pompage de l'eau en sous-sol, directement dans la nappe phréatique. Et puis, vous savez ce que c'est ? Les années ont passé et puis chacun s'est accommodé de la situation, comme Josette, charmante retraitée de 71 ans qui a absolument tenu à me montrer son installation dans sa cave.
Ça, c'est la pompe, le moteur qui tire de l'eau. Puis ça, c'est la réserve d'eau.
Donc cette eau, elle vient d'où ?
La nappe phréatique.
Et cette eau, elle est bonne ?
Oui, elle est bonne. Moi, je la bois.
Ah, vous me dites que vous la buvez, cette eau, et pourtant, on n'est pas si sûr qu'elle soit si bonne que ça.
Je suis pas malade. Ça va, il n'y a pas de problème.
Et pourtant, vous allez passer à l'eau potable.
C'est à cause de la pompe, j'en ai marre. Vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau. Quand il n'en a plus, que la pompe a l'air bonne, il n'y a plus d'eau. Hein. Plus rien pour les toilettes, plus rien. Pour le chauffe-eau, plus rien. C'est pas normal. Hein. On est quand même au 21e siècle.
Bah
Effectivement, Josette a raison. Josette sera bientôt raccordée au réseau potable.
Oui, comme une grande majorité des habitants, hein, d'ailleurs, parce que le problème, il faut savoir, il est aussi écologique et sanitaire, parce qu'aujourd'hui, la sécheresse et la qualité dégradée de l'eau des nappes phréatiques, eh bien, ont poussé le maire à engager les démarches auprès du syndicat intercommunal de l'eau pour être donc enfin raccordé au réseau d'eau courante.
Il y a des gens qui disent, bah oui, on va payer, mais au moins, c'est ce qu'on va donner à nos enfants, parce que moi, c'est pareil, hein. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose et puis qu'on ne l'ait pas vu venir. Tout, c'est aussi simple que ça.
Parce que vous sentez que l'eau en sous-sol, ici, elle est peut-être, elle va peut-être se dégrader.
C'est pour moi qui le dis. Hein. Ouais. Elle est dégradée. J'aurais préféré que dire, les gars, pas de problème, notre eau, elle est bonne. Allez-y, elle est encore bonne pour des générations.
Mais c'est pas le cas.
Pas technicien à ce point-là, mais ouais. Je pense pas, non.
La fin de la belle époque où l'on pouvait boire sans crainte l'eau du puits.
Oui, effectivement, c'est une belle conclusion, c'est ce que révèle cette histoire. Faut noter quand même que les habitants qui le souhaitent pourront conserver leur fameux système de pompage hein, et boire l'eau directement de la nappe phréatique. Enfin, ça sera quand même à leurs risques et périls. Et le plus drôle dans l'histoire, Mathieu, c'est que en fait, ce petit village, eh bien, figurez-vous qu'il aurait été relié à la fibre et à la 4G non. avant d'être relié au réseau d'eau potable.
Ça, c'est vraiment assez incroyable. Merci beaucoup, Lionel Gougelot. Vous êtes notre correspondant dans les Hauts-de-France.
À bientôt.
Europe 1. L'équipe est sauvage continue. 2 heures pour booster votre culture G et gâter vos zygomatiques en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 et d'une invitée d'honneur qu'on apprend à mieux découvrir. C'est la chanteuse Nathalie Dessay qui nous accompagne cet après-midi pour fêter la sortie de son nouvel album Sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, 14 reprises de Claude Nougaro. On est d'autant plus ravis qu'avec Eva, nous aussi, on chante et nous aussi, il nous arrive souvent de rendre hommage comme ça aux géants disparus de la variété française.
Non, rien de rien. Non,
je ne regrette rien.
Mal aimé. Je suis le mal aimé.
Oui, vraiment, les hommages s'enchaînent. Edith Piaf, Clo-Clo et maintenant Nougaro. J'y vois une magnifique filiation. On continue d'en parler en deuxième heure avec deux nouveaux concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage. La grande compète des journalistes de la rédaction continue. Chaque après-midi, 4 journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour qui reviendra à celui ou celle dont le sujet vous aura le plus captivé ou surpris. Dans cette deuxième heure, on va parler des secrets d'une étoile filante du rock, Eva.
Maître Gims.
Non, nous allons vous raconter les dessous d'une légende, Jimi Hendrix, toujours en compagnie de notre invitée Nathalie Dessay pour son album de reprise de Nougaro qui sort le 15 novembre. Nathalie, que je préfère mettre en garde, je suis un intervieweur redoutable. Je ne lâche rien. Quand je veux obtenir une réponse, comme hier face à François Baroin, l'invité n'a d'autre choix que de céder devant ma force de persuasion.
Non, je ne vous répondrai pas.
Vous ne me répondrez pas par pudeur,
Déjà, oui, puis je ne vous répondrai pas du tout.
Bon, la question était pourtant, qu'est-ce que vous pensez des trottinettes électriques? C'était pas non plus, bref.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage entre dans sa deuxième phase que j'aime à appeler phase décisive, car oui, en grand amoureux des mots, j'aime façonner de nouvelles expressions. Voici la phase décisive, celle où, toujours sous la houlette de notre invitée d'honneur Nathalie Dessay, nous accueillons deux nouveaux journalistes en compétition. Je vous les présente, ma chère Nathalie. À ma gauche, je l'avoue, quitte à me départir de ma neutralité qui devrait être la mienne, quand j'ai appris que Fred Goati, le directeur de Jazz Magazine, allait intégrer la bande de l'équipe est sauvage, j'ai bondi de joie comme Eva hier, pour d'autres raisons.
Oh, on a reçu des chips. Carton entier de chipster.
Oui, mais c'est la même joie qui m'a envahi. Bonjour Fred Goati.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je suis désolé Fred.
Votre truc à vous,
j'ai bondi de joie
ça vient
aussi,
du cœur, voilà. J'en doute pas.
Votre truc c'est le jazz, mais vous touchez aussi votre bille en rock. Aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir les secrets d'une légende, Jimi Hendrix.
Eh oui, comment un jeune guitariste et chanteur venu de New York a changé le cours de l'histoire de la musique en 9 mois. Et tout ça s'est passé à Londres entre septembre 66 et juin 67.
Et ça tombe très bien parce que Jimi Hendrix, je connais son nom, mais je crois que je ne connais pas une seule de ses chansons. Je suis nul en Jimi Hendrix, donc vous allez me déniaiser aujourd'hui. À ses côtés, Nathalie Dessay, lui aussi, il s'y connaît en musique.
J'aime bien les Boys to Men.
Oui, alors heureusement, il est aussi notre expert sport, il s'y connaît plus en sport. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ils ont eu leur petit succès, les Boys to Men.
Certes, mais si vous voulez, on parle de Nougaro depuis tout à l'heure, je ne sais pas sur l'échelle des valeurs, je ne sais pas trop où les mettre.
En tant que Toulousain, vous prêchez un convaincu sur Nougaro.
Aujourd'hui, mon cher Jérôme, vous allez lever un mystère qui personnellement m'obsède depuis mes révisions du bac devant Roland Garros. Pourquoi les joueurs de tennis et surtout, il faut le dire, les joueuses font en envoyant la balle? L'explication est-elle psychologique ou biologique?
Eh ben, il y a un peu tout ça. Vous savez que c'est quelque chose qui parfois va jusqu'à embêter énormément les téléspectateurs, mais aussi les adversaires. Eh ben, figurez-vous que ces cris ne doivent absolument rien au hasard. Il y a des raisons physiques, physiologiques, ça se passe aussi dans la tête, mais il y a aussi des raisons très stratégiques et certains échafaudent de véritables stratégies en se servant de ces cris pour déstabiliser les adversaires.
Les secrets de Jimi Hendrix ou bien les secrets du Quel sujet vous intriguera le plus? Vous votez via Twitter. Nous, en attendant, on apprend à mieux connaître notre invitée, Nathalie Dessay, qui sort le 15 novembre prochain un album de reprise de Claude Nougaro sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches. Nathalie Dessay, qui, de l'opéra au jazz en passant par la comédie musicale, a touché à tout ces dernières années. Mais qui est pour vous, Nathalie Dessay? On est allé vous poser la question.
Oui, bien sûr, Nathalie Dessay, bien sûr, c'est une soprano d'opéra très connue.
Une chanteuse classique.
Soprano, ça vient du latin superius, c'est la voix de femme aiguë.
Non, ça fait pas mal aux oreilles, si c'est une belle voix.
Pour moi, Nathalie Dessay, c'est l'opéra, c'est une voix d'opéra que j'aimais.
Mais c'est pas la Castafiore.
Je suis un homme, malheureusement, donc je chante en baryton.
Bah, Nathalie Dessay, bien sûr.
I've traveled each and every highway.
Je regrette qu'elle ne fasse plus l'opéra.
Mais je l'ai entendu à plusieurs reprises. Et c'est une voix qui vous prend, quoi.
Au revoir, Nathalie.
Nathalie Dessay, une voix qu'on n'oublie pas. On entend les gens, hein, on en parlait tout à l'heure en antenne, aiment bien chanter, même quand leur voix ne s'y prête pas forcément. Et ils aiment bien pousser la chansonnette. Aujourd'hui, Nathalie, vous êtes comédienne. Et ça, c'est pas du tout nouveau. C'est en fait la base de votre formation. J'ai envie de dire, vous aviez envie d'être comédienne avant d'être chanteuse d'opéra.
Oui, oui. À 18 ans, j'ai commencé à étudier le théâtre. J'étais en même temps à la fac et puis j'ai laissé la fac pour continuer le théâtre. Et le théâtre m'a menée à l'opéra.
Moi, innocemment, je pensais que pour devenir une des meilleures chanteuses lyriques du monde, il fallait être complètement obsédée par l'opéra depuis son plus jeune âge. C'est juste vos qualités intrinsèques qui vous ont guidée par là. Sinon, c'était
oui,
pas
c'est
votre
la vie.
Passion.
Non, non, c'est pas du tout ce à quoi je me destinais. Mais à 20 ans, j'ai commencé à prendre des cours et que j'ai réalisé que j'avais une voix qui allait pouvoir me permettre de monter sur scène, puisque c'était ça l'idée. Bon, bah, j'ai pris mon parti du fait que j'allais devoir chanter pour incarner des rôles. Et des personnages.
Et baroques.
Aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes accomplie dans ce que vous faites. Vous avez eu votre carrière de chanteuse lyrique et en étant au théâtre, c'est le rêve d'une petite fille qui s'accomplit.
Oui, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on doit tout réapprendre, là aussi. Il s'agit vraiment de reprendre les bases et d'apprendre en faisant... ou en faisant des stages, ou en lisant, ou en parlant beaucoup avec les autres acteurs, pour se construire une méthode aussi, quelque part, et avoir des outils pour pouvoir s'exprimer.
Votre compagnon, votre mari, je crois, il est aussi chanteur d'opéra.
Oui.
Longtemps, donc vous avez eu le même métier. C'est pas, on dit souvent qu'il ne faut pas faire le même métier pour
être un
coup de pied dur.
Je ne suis
pas d'accord avec ça. En tout cas, chanteur d'opéra, ça marchait pour vous. Mais vous étiez toujours en voyage. Vous voyez parfois à l'époque.
Oui, on s'est vu au moins pour faire deux enfants. Et puis pour tâcher de les élever. Et on ne les a apparemment pas trop dégoûtés de la musique puisqu'ils sont tous les deux musiciens.
Tous les deux. Enfants. Donc votre fille chante. Et...
Ma fille chante, elle a 21 ans et mon fils a 24 ans et il est allé à l'école de Didi Lockwood à Damary-les-Lys. Il fait du saxophone.
Du saxophone, très voilà. Bon choix, très bon choix, le saxophone. Oui, je rappelle à
nos
auditeurs
qui bondit.
Pourquoi vous bondissez, Fred?
J'adore l'école Didi Lockwood, j'y donne des conférences.
Ben voilà, ben mon
c'est
fils
vrai
doit
mais oui
de vous connaître.
Ah, mais vous vous y connaissez vraiment en fait, Fred? Je ne savais pas.
Je n'en relève pas.
Elle chante Nougaro dans un album à paraître le 15 novembre. Nathalie Dessay, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre son album à lui, Jérôme Lacroix chante les plus grands tubes de Bernard Minet, est encore en phase de pré-production. Faute de budget, il a renoncé au studio d'Abbey Road pour enregistrer dans le bar PMU en face d'Europe 1, au plus proche de ses fans.
Les chevaliers du Zodiac, toujours à l'attaque, transcendent les héros.
Jérôme Lacroix, The Voice, arrive pour nous parler de voix qui portent encore plus que la sienne, les voix de sportifs dans l'effort.
Ah ouais.
Oui,
non,
comme quoi avec...
arrêtez avec
mais
ça.
Comme quoi, avec un petit bruitage derrière, on pourrait croire que vous jouiez au tennis ce jour-là. Alors que vous jouiez pas vraiment au tennis, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour muscler vos cerveaux tout en gainant vos zygomatiques. 2 heures d'un combat impitoyable entre les meilleurs journalistes de la rédaction qui se tirent la bourre au service de votre culture G. Un seul se verra couronné tout à l'heure chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre, la chanteuse Nathalie Dessay, dont l'album Sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, album de reprise de Nougaro, sort le 15 novembre prochain. On continue d'en parler et de l'écouter, mais le moment est venu de découvrir notre troisième concurrent du jour, un journaliste, mais d'abord un homme, un champion, mais aussi un gentleman. Ainsi, chaque premier mercredi du mois, il a avec sa femme, qu'on salue, un petit rituel. Disons que les enfants passant la nuit chez papy et mamie, ils se retrouvent. Un événement pour lequel Jérôme se prépare toujours avec minutie.
Comment ça va? Oh, t'es tout rasé.
Oui, oui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
En médecine, on vient de passer le dernier mercredi du mois.
Tu fais l'amour le dernier mercredi du mois?
Ah oui, quand même.
Et alors, il faut que tu te... Oui, ça gratte.
Oui, bah oui, attends... politesse.
Jérôme Lacroix, cet après-midi, vous êtes encore rasé de près. Ouais. Visiblement chez les Lacroix, le deuxième mercredi du mois est aussi caliente que le dernier. Bref,
j'ai honte.
On embrasse Elsa, votre femme qui nous écoute. Vous nous décryptez aujourd'hui un mystère buccal. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? J'ai pas très bien compris, Jérôme.
Bah, je me suis dit, nous recevons Nathalie Dessay, chanteuse, cantatrice. Bien sûr, la somme de votre travail vous a permis, on vous a déjà entendu, d'atteindre des hauteurs de notes parfois vertigineuse. Alors, je ne sais pas combien de décibels sont émis par vos cordes vocales au point d'orgue de tels sommets, mais pour vous, du coup, aujourd'hui, Nathalie, je me suis permis de choisir moi aussi de faire parler les décibels. Alors, vous entendez la joueuse de tennis Michele Larcher des Brito, des hurlements à chacune de ses frappes de balle. Alors, ces cris à elle, hein, ils sont uniques d'intensité sur le circuit professionnel.
Et nous sommes d'accord. Très aigus par rapport aux cris normaux.
Alors oui, absolument. Mais bon, beaucoup de joueuses et de joueurs aussi jouent ainsi à gorge déployée. D'ailleurs, je vous parlais de décibels. Figurez-vous que ces cris de joueuses et de joueurs, mais c'est vrai, surtout les joueuses, ils ont été mesurés. Les organisateurs de Wimbledon, le grand tournoi londonien, ils sont amusés à placer des capteurs. Et les rugissements de certaines joueuses, comme par exemple la russe Maria Sharapova, dépassent les 100 décibels. 101 pour Maria Sharapova, 105 même pour une joueuse biélorusse, Victoria Azarenka. C'est autant, par exemple, que si vous étiez à côté d'une tondeuse à gazon, ou par exemple, c'est le même bruit, comme si un petit avion atterrissait juste à côté de chez vous. Et bien moi, je me suis demandé, pourquoi ces hurlements pendant les Jeux? À quoi ça correspond? Et bien la réponse est surprenante.
Mais parce que vous voulez dire que ces hurlements sont quelque part calculés?
Alors, ça tient d'abord à l'instinct et à l'effort pendant le match. Certaines ne peuvent lâcher leur coup sans ce supplément sonore, mais c'est beaucoup plus complexe. On le sait parce que des scientifiques se sont penchés sur la question. Crier au tennis augmente la force de frappe des athlètes de 4% pendant les échanges, de 5% au service, selon des études très sérieuses. Hein, la balle va plus vite d'environ 3 km à l'heure. Pourquoi? Alors, j'imagine que ça va vous parler, Nathalie Dessay. C'est une histoire de respiration. C'est la même chose quand on chante. De thorax qui se relâche lors de ce râle vraiment d'expiration. Ça permet de mieux lâcher son cou. Et ce flux respiratoire intensif, il permet aussi de mieux gérer le stress lors des moments décisifs des rencontres. Alors, un autre aspect, ça c'est rigolo. Ces cris peuvent déstabiliser l'adversaire. Ah ben oui. Selon une étude canadienne, le temps de réaction de l'adversaire augmente d'environ 33 millièmes de seconde. Évidemment, à très haut niveau, c'est capital. Alors pourquoi? Ben notamment parce que le bruit du cri couvre le son de l'impact de la raquette contre la balle. Et ça, c'est un repère pour l'adversaire. Du coup, l'anticipation est rendue plus difficile. Quand on l'explique, ça paraît
c'est
logique.
Génial. C'est absolument génial.
D'ailleurs, il est déjà arrivé que des joueuses disent ouvertement, après les matchs, qu'elles ont été perturbées par les cris de leurs adversaires.
Alors, du coup, certains entraîneurs malins échafaudent de très sérieuses cultures du cri chez leurs joueuses, c'est ça?
Un seul exemple, moi je l'ai découvert, j'ai trouvé ça formidable. La Française Pauline Parmentier, on était à Roland-Garros en 2018. Alors chez elle, c'est pas naturel de crier, elle ne crie pas quand elle joue. Mais son entraîneur, lui, il en est sûr, la frappe de balle de sa joueuse est meilleure quand elle crie. Alors, il prend un feutre et il écrit sur le bras de sa joueuse avant qu'elle entre sur le court qu'elle ne doit pas oublier de crier. C'était écrit sur son bras. Alors pendant tout le match, il lui disait « regarde ton bras pour pas oublier de crier ». Et ce jour-là, elle a remporté près d'une trentaine de points décisifs. Ça a vraiment changé la donne. Alors ces cris ne plaisent pas aux autorités mondiales. Et depuis des années, elles ont lancé des campagnes anti-cris, si on peut dire, dans les écoles de tennis via des sensibilisations auprès des jeunes joueuses. Mais pour l'heure, et je pense que c'est tant mieux, aucun règlement n'est jamais venu les interdire.
Jérôme Lacroix, une fois de plus, vous m'avez scié, parce qu'avec un thème, franchement, que je trouvais bancal, je me disais, mais où ça va? Et en fait, on apprend vraiment des choses passionnantes. Juste une question, est-ce que les scientifiques se sont pensés sur la question de savoir si on peut taper la balle au tennis à haut niveau, en tout cas, sans émettre de cris? Je me demande, je crois que moi, je crie mais quand je joue
en
amateur.
Bien.
Alors, chaque cas est personnel. Regardez, par exemple, si on prend les meilleurs joueurs du monde, Nadal, par exemple, il hurle.
Ah oui.
Mais Federer.
On ne hurle pas, ça. Voilà.
Donc, oui.
Imaginez si Roger criait en plus.
Si Roger se met à crier, il a 10 ans de plus de carrière, en fait, là, maintenant
jusqu'à
qu'il attend.
À 45 ans, il sera au top.
Voilà,
c'est magnifique. Votre chronique aura-t-elle intéressé notre invitée, Nathalie Dessay, réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, quoi de mieux pour nous parler d'une femme qui n'y croyait plus et qui soudain redécouvre enfin sa sexualité que l'expertise d'Eva Rock. Miss Fletcher, la nouvelle série d'OCS, vaut-elle le coup ? Miss Rock nous livrera son avis. Il faut dire qu'Eva est plus douée pour choisir les séries que ses amants. Comme une fois sur deux, qu'elle sort en boîte, elle oublie ses lentilles. Le lendemain matin, au réveil, elle a de sacrées surprises.
On dirait Franck Ferrand.
On fait le point sur notre programme du soir et la vie sentimentale d'Eva juste après. Alec Benjamin, Let Me Dance Slowly sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui, si le titre n'était pas déjà déposé, pourrait aussi s'appeler Les Grandes Voix. Celle des baroques, bien sûr.
Pom, pom,
pom, pom. Mais surtout, surtout, celle de nos invités ces derniers jours, la soprano Nathalie Dessay aujourd'hui, et celle du Barry White de Troyes, François Baron hier, dont les filles buvaient les paroles.
Ils sont pas au studio.
Certaines de ces phrases ont même enflammé l'imagination d'Eva, comme par exemple
« Mais depuis quand vous avez une salle de repos à Europe hein ?»
Ou encore sur ses projets
« C'est d'avoir du temps libre pour pouvoir faire des enfants. »
Depuis hier, j'évente Eva pour la calmer. Nathalie Dessay, un duo avec François Baron, vous n'y avez jamais pensé. Ça pourrait être la prochaine étape.
C'est vrai. Du coup, je vais voir ce qu'on peut faire.
En même temps, vous avez déjà un baryton à la maison.
C'est ça. Mais quel baryton.
Et quel baryton. Votre compagnon. Vous avez une passion commune avec votre mari. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. En tout cas, à l'époque où vous vous êtes rencontrés, vous n'avez pas forcément parlé d'opéra à l'époque. Vous avez parlé de séries. Vous étiez fan de séries.
Oui, c'est vrai. Mais alors du coup, moi, je ne regarde plus du tout.
Ah, c'est fini ?
Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai une nature addictive. Donc, je sais que si je commence, je ne vais plus du tout avoir de vie.
Ah ben là, n'écoutez pas ce qui suit. Alors, la chronique des baroques.
Non, mais d'ailleurs, je me bouche les oreilles à partir de maintenant.
Bouchez-vous les oreilles à partir de maintenant.
Je vais partir.
Car on perd désormais en moyenne, tous autant que nous sommes, 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran de Netflix, sauf Nathalie Dessay, pour choisir la série ou le documentaire ou le film qu'on va regarder. Heureusement, il existe. 17 minutes de gagner. Eva Rock, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
Mais vous allez apprécier parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a que deux.
Je m'entends pas, elle a les oreilles bouchées.
Pour l'instant, il n'y a que deux épisodes, Nathalie Dessay.
Oui, mais
de
justement,
la
je
série.
Ne veux même pas en savoir plus.
Pourtant, je vous avais trouvé un personnage féminin fort, une femme libre.
Ah, on vous écoutait. Joli teaser.
Allez. Allez. Je l'ai trouvé grâce à une nouvelle série HBO. Ça s'appelle Miss Fletcher. C'est diffusé sur OCS.
Qui est là ? Qui joue alors ?
Elle est Fletcher. Vous allez comprendre, c'est une quadra divorcée. Elle travaille dans une sorte d'EHPAD. Son fils quitte le cocon familial pour l'université. Et donc, elle se retrouve toute seule. Elle est un peu paumée au départ. Mais elle est libre. Une femme libre qui va notamment redécouvrir sa sexualité après avoir consacré ses dernières années à son rejeton de garçon. Elle a accepté un rendez-vous avec un homme qu'elle ne connaît pas. Elle a sa photo. Elle décide de le montrer à une connaissance, une femme qu'elle croise. Réaction de la personne en question.
Il a l'air gentil.
Comment ça, gentil? Comment ça?
Sur la photo, il fait sérieux, vous voyez? Genre... Vous savez à quoi il me fait penser? À ce truc qu'on pose tout en haut d'une pièce montée, là.
D'une pièce montée?
Oui, la petite figurine du mari.
Ah, vous trouvez?
Tant mieux. Oui, il incarne l'homme idéal, vous voyez? Genre... Il a une bonne tête, je vous assure. Et puis, personne n'a jamais été déçu par la figurine du mari entre vous et moi.
Quoi ? C'est pas vrai. Certaines personnes peuvent être déçues.
Ah non, c'est pas possible. Vous savez quoi ? C'est peut-être l'homme de votre vie.
Alors en fait, il faut l'écouter en version originale, parce que la version française est toujours dégueulasse. Pardon. Oui, c'est évidemment en version originale.
D'ailleurs, stop. Message à tous les doubleurs de films. J'ai revu dernièrement The Game de David Fincher, qui est un film, un chef-d'œuvre. Je me suis trompé, je l'ai acheté en VF. J'étais dégoûté. Je l'ai regardé en VF.
Et ça se
regarde
bien
parce que c'est extrêmement bien doublé.
Oui, la plupart du temps, c'est très bien doublé.
Aujourd'hui, les séries, il y en a tellement, en fait, ils ont du mal à suivre.
Voilà.
Mais c'est beaucoup, beaucoup plus mal doublé que dans les années 90. C'est irregardable en français.
Vous avez donné
c'était mon coup de gueule.
Vous
c'était
avez donné la réponse, en fait. C'est parce qu'il y a d'abord trop de séries. Et comme voilà. On veut les voir quasiment en même temps que quand elles sortent aux États-Unis, notamment.
C'est notre faute aussi.
Il faut aller plus vite. Voilà. Donc là, je vous ai mis la version française. En fait, vous
excusez-moi,
allez comprendre.
Continuez,
mais il n'y a pas de souci. La réaction de la femme en question ne va pas rassurer notre Miss Fletcher qui, elle, stresse un peu à l'idée d'avoir un rendez-vous. Mais elle va quand même y aller à ce rencard. La suite, je vous la laisse découvrir. En fait, si je vous conseille Miss Fletcher, c'est parce que c'est une comédie réjouissante grâce à son héroïne qui est brillamment interprétée par Catherine Hahn. On l'avait déjà vue dans une autre série, I Love Dick, mais elle n'est pas très connue. L'actrice, elle est très touchante, elle est juste, elle est drôle, elle n'en fait jamais trop. On aime un peu ses doutes, ses questions existentielles de femmes célibataires. La relation à son fils aussi qui va devenir explosive au fur et à mesure que le garçon s'émancipe et que la mère aussi s'émancipe. Et c'est d'ailleurs l'autre point fort de la fiction, c'est le rapport mère-fils et l'entrée dans l'âge adulte d'un jeune homme qui sont extrêmement bien dépeints. C'est à voir sur OCS ou sur la plateforme d'OCS en rattrapage. Ça s'appelle Miss Fletcher. Il y a pour l'instant deux épisodes et il y en a six sur la première saison. Donc
six.
On n'est pas trop addictif. Les épisodes sont courts, 38 minutes à peu près.
Ah oui, c'est un format comédie.
Ouais, format comédie, exactement.
17 minutes de gagné. Merci beaucoup, Eva Rock.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue avec notre invitée Nathalie Dessay. À suivre, c'est une figure légendaire des années 60, magnétique, surdouée. Bien des hommes l'ont jalousée, bien des femmes ont rêvé de se blottir dans ses bras. Vous voyez de qui je parle, Eva ?
Giscard ?
Presque, Jimi Hendrix. On n'était pas loin. On connaît tous son nom, mais connaissez-vous sa musique et son histoire ? À l'occasion de la sortie d'un livre consacré à Hendrix, Fred Goetti nous raconte l'homme derrière le phénomène.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, vous êtes au cœur de 2 heures de bonne humeur et de découverte. L'équipée sauvage, l'émission si palpitante de bout en bout qu'elle fait dire aux invités comme François Baroin hier.
Vous me libérez à quelle heure ? Enfin, c'est juste pour moi.
Ça va pour tout. Aujourd'hui, c'est Nathalie Dessay qui nous accompagne, chanteuse et comédienne. Vous terminez actuellement une tournée avec La Légende d'une vie de Stefan Zweig. Et en 2020, vous serez sur scène avec Yvan Cassar au piano pour chanter Nougaro. L'album Sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches sort la semaine prochaine.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir.
Nathalie Dessay, tout à l'heure, hors antenne, vous nous disiez quelque chose d'incroyable, que vous preniez des cours de chant, parce qu'il a fallu apprendre à désapprendre à chanter pour réapprendre à chanter, passant du lyrique à la chanson, à la variété. Et vous avez donc un prof de chant. Et je vous demandais comment c'est possible d'être le prof de chant, comment c'est possible de s'adresser à Nathalie Dessay comme à une élève. Et vous me racontiez la rencontre avec ce prof de chant.
Ben oui, c'était génial. C'était au Châtelet. On était en train de faire une comédie musicale de Stephen Sondheim qui s'appelle Passion, qui est d'ailleurs une très très jolie comédie musicale. C'est pas une comédie musicale, c'est plutôt un drame musical. Et donc, Pierre Babola était là et me voyait galérer sur certaines phrases parce que je cherchais à porter la voix de poitrine plus haut et à pas passer en voix de tête, gorge ouverte, comme on fait à l'opéra. Et il est venu me voir à la fin et en me disant « Écoute, moi, je fais de la comédie musicale depuis longtemps, je sais comment ça se chante, je connais bien ce style et je te propose de te l'apprendre parce que je vois que tu as envie de l'apprendre et que tu sais pas comment faire.
Voilà. » La précision, c'était un ami, une connaissance à vous avant, où il est venu vers vous, il vous a dit « Nathalie Dessay, je vais vous aider à chanter. »
Non, mais c'est-à-dire qu'on s'était rencontrés sur la production et qu'on avait sympathisé, mais lui-même était mort de rire en me disant « C'est incroyable que je propose ça à Nathalie Dessay, mais quand même, c'est un mec qui est vachement sympa en fait. » Donc il est venu me trouver vraiment avec beaucoup de générosité, je dirais.
Et finalement, c'est une chance pour vous parce que finalement, peu de gens auraient osé, même s'ils avaient eu l'idée, vous proposer des cours de chant.
C'est ça, et ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage parce que vraiment, je travaille très très bien avec lui.
Ah oui, alors c'est la question que j'allais vous poser. Vous continuez à travailler avec lui ? C'est-à-dire en permanence les cours
bien
de
sûr.
Chant
toutes les semaines.
Toutes les semaines.
Oui, oui.
Comme nous, on continue de progresser, on s'entraîne. On devrait prendre des cours de radio. On devrait bien un petit cours de radio tous les jours. Alors, Nathalie Dessay, vous reprenez Nougaro. Je vous présente maintenant notre dernier journaliste en compétition aujourd'hui. Lui aussi, il est fan de Nougaro. Il a tenu à être avec nous cet après-midi, même s'il a eu une nuit compliquée. Il a fait le siège sous les fenêtres de son ex-femme.
Je suis rond. Je suis un salaud.
Non, 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 non.
Avec Christine.
Fred Goetti, vous nous parlez ce matin non pas de Claude Nougaro, mais d'un autre génie disparu encore plus tôt, Jimi Hendrix. Castor Music sort aujourd'hui le livre de Jas Obrecht, Stone Free, Jimi Hendrix de Londres à Monterey. Et vous avez le culot de nous faire croire que vous allez résumer les 9 premiers mois de son irrésistible ascension en 2 minutes.
Je vais en tout cas essayer d'être aussi rapide que l'étoile filante Jimi Hendrix qui traversa le ciel londonien entre septembre 1966 et juin 1967. Alors juin 1967, parlons-en. Jimi Hendrix revient dans son pays natal et cloue littéralement sur place le public du festival pop de Monterey. Mais retournons.
C'est une analyse musicale des baroques.
Il
savait jouer de la guitare.
Ouais.
Elle ressent très très bien la musique. Voilà. Alors retournons, s'il vous plaît, 9 mois en arrière. Ah. Le samedi 24 septembre 1966, à 9h du matin, un jeune vétéran de la guitare électrique de 26 ans pose le pied à l'aéroport Heathrow de Londres. Un petit pas pour cet homme, un bond géant pour la musique. Très vite, Jimi Hendrix forme un groupe, The Experience, puis Lee Hallyday lui fait signer son premier contrat pour donner plusieurs concerts en France.
Mais ça a un rapport avec Johnny Hallyday, ça ?
Lee Hallyday, monsieur, tout le monde le sait, c'est le cousin de Johnny Hallyday.
Tout le monde le sait,
qui travaillait
à Jazz Magazine peut-être.
Mais oui,
mais ici,
alors,
non.
Là, du coup, Jimi Hendrix traverse donc la Manche pour donner ses tout premiers concerts en première partie de Johnny à Nancy, à Évreux, à Villerue, puis à Paris, à l'Olympia, pour un musicora historique enregistré par, s'il vous plaît,
Europe 1.
Oh, vous savez tout. Oui. Ils sont très forts.
Non, alors, je suis juste corporate, je dis toujours Europe 1. Même si c'est pas Europe 1, je dis toujours Europe 1. Je comprends mieux.
Musicorama, oui.
Alors, dès ses premiers concerts, il joue avec ses dents, enfin il fait semblant, hein, il fait passer sa guitare derrière la tête, il bouge lascivement et surtout, il invente quelque chose d'inouï à chaque seconde. Bref, Jimi Hendrix est une menace pour la jeunesse et une bénédiction pour la musique. Et dans la foulée, son premier 45 tours sort le 16 décembre 1966. Alors, Hey Joe. Hey Joe, c'est le Big Bang Hendrixien, l'origine de son univers. Puis son premier 33 tours, Are You Experienced? Êtes-vous expérimenté? Provoque en mai 1967 un choc sismique sans précédent. La musique est révolutionnaire, les paroles sont poétiques. Ce disque sort un mois, rendez-vous compte, avant Sgt Pepper des Beatles, qu'à l'époque. Et c'est justement grâce à Paul McCartney que Jimi Hendrix se retrouve à l'affiche du Festival de Monterey pour donner un fabuleux concert où, comme chacun sait, il alluma le feu, mais à sa manière. Sa guitare périt dans les flammes, mais certainement pas son génie. Depuis, eh bien oui, on a tous quelque chose en nous de Jimi, et cette belle histoire vous est racontée dans le détail grâce au livre de Chasseur-Bretch.
But first, are you experienced?
Quand vous mettez en parallèle la musique et la date, ça paraît tellement moderne pour l'époque, enfin, tellement avant-gardiste.
Il n'y a pas d'erreur, j'ai vérifié.
Ah non, je me doute, Fred. Le chant lyrique, le jazz, la variété, il manque plus que le rock, Nathalie Dessay.
Oui, alors ça, c'est pas du tout mon
truc. Ça, c'est pas votre truc, le rock. Pourquoi ?
Pas du tout. Pour moi, c'est trop simple, c'est trop binaire.
Ah, c'est trop binaire.
C'est pas assez compliqué, c'est pas assez raffiné. Alors, bon, c'est mon goût. Moi, ça ne me fait pas du tout vibrer, ça ne me procure aucune émotion.
Tout à l'heure, on écoutait même quand c'est très... Alors, Freddie Mercury
Freddie Mercury, mais pour moi, ça, c'est pas du rock.
C'est
pour
encore
moi,
autre chose.
C'est grand, ça.
Merci Fred Goetti. Votre chronique, à défaut d'avoir intéressé Nathalie Dessay au rock, aura-t-elle piqué sa curiosité? On le saura tout à l'heure, peu avant 18h, sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches. Elle reprend Claude Nougaro. L'album sort la semaine prochaine. Nathalie Dessay passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, on discute. Mais l'heure de l'apéro arrive. Immédiatement, vous vous dites Eva.
C'est trop bon la Pietra. Tu pourras nous en ramener ou pas?
Non, oui, non. Mais ça, c'est pour l'apéro, on a ce qu'il faut. Mais après l'apéro, il y a le dîner, Eva. Et là, je suis sûr que vous avez une fois de plus complètement oublié de faire les courses. Heureusement qu'on a inventé Delice in Extremis, la recette de dernière minute inratable qui vous sauve la mise. A tout de suite, les gourmands.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, continue 2 heures pour étoffer votre culture générale sans pour autant négliger vos zygomatiques. 2 heures aussi pour recueillir les confidences parfois émouvantes d'un invité comme Nicolas Bedos lundi. Nicolas Bedos qui à un moment est parti dans une bouleversante déclaration d'amour à Alain Souchon. Mais en grand séducteur, Bedos le sait, pour entretenir la flamme, il faut parfois savoir retourner sa veste.
Ah, j'adore cet homme, je l'admire énormément. Il a fait des chansons magnifiques. Et on en parlait avec Doria pendant la chanson. Là, à un moment donné, on s'était dit terminons tous nos films à venir, si on en a la chance, par une chanson d'Alain Souchon. Et puis, non.
Et oui, il fait des films émouvants, mais il a gardé son esprit taquin. Aujourd'hui, c'est la comédienne et chanteuse Nathalie Dessay. On va vite enlever Gilbert Montagnier, parce que quand on passe à Nathalie Dessay, quand même un peu de respect pour la musique, qui passe l'après-midi sur Europe 1. Le 15 novembre, sort son nouvel album sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches.
Tiens-toi bien à mon cœur, car l'amour, ça va vite. Accroche-toi bien à mon cœur, tout autour de nous, le monde est en fuite. L'amour, tu ne savais pas, ça fonce tout droit, soudain la route nous quitte.
Nathalie Dessay, c'est peut-être juste un ressenti personnel, mais c'est aussi à travers les interviews que j'ai lues de vous, on vous sent beaucoup plus décontracté et épanouie depuis que vous avez quitté l'opéra et que vous découvrez...
Non, mais j'étais épanouie à l'opéra aussi.
C'est vrai.
Ben oui, mais
on sent plus détendu en tout cas.
Oui, mais enfin, c'est-à-dire que j'ai grandi, sinon vieilli, donc je me suis bonifiée.
Mais le quotidien doit être quand même plus stressant quand on est chanteur d'opéra. Je lisais dans certaines interviews, vous disiez le moindre courant d'air, on flippe,
oui,
on a
oui,
peur.
Oui, c'est flippant parce qu'il faut jamais être malade. C'est-à-dire que la moindre contrariété, j'allais dire presque, fait que vous allez chanter moins bien le soir. Donc il faut vivre sous cloche. Et ça, c'est vrai que c'est pénible. Là, en ce moment, par exemple, j'ai un petit coup de froid.
C'est pas
mais
grave.
Je m'en fous. Mais je m'en fous, mais d'une force. Mais c'est génial. Quand je jouais au théâtre il y a deux jours, je m'en foutais d'être malade, je veux dire. Alors, en revanche, pour chanter, c'est quand même toujours un problème d'être malade.
Bah oui, c'est la même chose.
Parce que quand même, ce qu'on fait, surtout derrière un micro, doit être quand même précis et beau. Et on ne peut pas se permettre de chanter oui. comme ça, parce que je ne suis pas encore Tom Waits, hélas. Donc, voilà.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a développé le principe des chorales à l'école. Est-ce que
oui,
vous trouvez ça bien ?
Oui, c'est bien et, ça.
Mais ça sert à quoi, la chorale ? Est-ce que vous pensez que c'est par la chorale qu'on va intéresser les enfants à la
Écoutez,
musique ?
Écoutez, il faut bien commencer par un bout.
Parce que moi, la flûte à bec, ça fait une dégoûtée de la
oui,
musique.
Oui, on est d'accord, moi aussi. Mais la chorale, ça ne fait pas de mal. Ça ne peut pas faire de mal, ça. Sûrement pas. Chanter ensemble. En plus, les jeunes, aujourd'hui, ils ont envie de chanter. Donc, c'est très bien.
C'est
alors après, il faut voir quoi.
Oui,
qu'est-ce qu'on va leur faire chanter ?
C'est le problème, oui. Effectivement.
Mais il y a des tas de très, très belles choses à chanter, surtout en chœur.
L'album sort le 15 novembre. La tournée suivra en 2020 et va juste une date ou deux. Vous avez quelques dates à nous donner ?
Alors, il y a plein de dates déjà que vous retrouverez évidemment sur Europe1.fr. Il y en a une notamment au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Ce sera le 9
très
juin.
Très bien, c'est à côté
Nathalie
de chez moi.
Voilà, c'est à côté de chez vous, mais aussi Marseille, Mérignac, Tours, Nantes, Deauville. J'en passe et des meilleurs.
Très bien, c'est aussi près de chez moi, j'ai des résidences secondaires partout. Nathalie Dessay est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, son opéra préféré, lui, ce n'est pas Carmen, ni les Noces de Figaro, ni la Traviata. Olivier Pouls, mélomane pointu, mais surtout gastronome averti, vous livre votre recette de dernière minute. Délice in extremis arrive juste après Jean-Louis Aubert, bien sûr.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, l'émission préférée de votre cerveau, de vos zygomatiques, mais aussi de vos délicates petites papilles. Or, chaque jour, c'est le même refrain. Omnibulé par vos responsabilités familiales et professionnelles, vous avez une fois de plus oublié de faire les courses. Et lorsque tout à l'heure, en rentrant à la maison, votre conjoint vous demandera si vous avez pensé au dîner de ce soir, vous répondrez piteusement en regardant vos chaussures.
Mais je suis...
Voilà, non, heureusement, chaque après-midi, vers 6h moins le quart, un homme vole à votre rescousse, cordon bleu émérite. Il est avant tout un gentleman qui sait toujours trouver les mots pour flatter les femmes.
Moi, j'adore ça, en fait. J'adore qu'on pique dans mon assiette. Je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est le fait de partager mon plat avec la personne qui est en face de moi. C'est un truc de dingue.
Parce que tu penses que tu vas maigrir, du coup.
Bonjour Olivier Pouls. Quelle classe.
C'est ça, là. Ça hier.
La classe belge, oui. Non, c'est très élégant.
Et je pense qu'il a raison.
C'est psychologique.
Aujourd'hui, en l'honneur de Nathalie Dessay, qui craint le pire, vous pensiez nous proposer un opéra, sauf que c'est un peu compliqué comme dessert, l'opéra. Alors, vous avez inventé un dessert plus simple.
Mais surtout, je me suis souvenu...
Visuellement, je vous confirme, c'est beaucoup plus simple.
Alors, surtout, je me suis souvenu qu'en 1894, le chef des chefs, Auguste Escoffier, subjugué par la prestation de la soprano Nelly Melba, avait inventé
la pêche
un
Melba.
Dessert
non.
Pour elle,
oui.
La pêche Melba.
C'est un de mes desserts préférés.
Exactement. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a un dessert ?
Non.
Mais comment aucun peu de pâtissier au monde n'a pensé à faire un dessert en votre hommage ? Donc, je l'ai fait. Nuit blanche à revisiter les standards de la pâtisserie, à faire, défaire. Et alors, sur le coup de 7h du matin, alors que j'écoutais du Nathalie Dessay à tue-tête, l'inspiration. L'idée géniale, le dessert que je vous ai apporté là.
Qui s'appelle ?
Et qui s'appelle le Dessay. C'est une création originale.
Oui, oui, oui.
Alors, il faut suivre là.
Mais il faut suivre. Non, mais je croyais que ça avait un double.
Alors, je vais vous donner la recette, vous allez pouvoir le goûter parce que vous remarquez qu'en 52 ou 53 émissions, c'est la première fois en plus que je fais le dessert et je l'apporte.
Oui, oui, je sens que vous avez une vraie passion.
Gérard Darmon avait trois figues.
Oui, rien du tout, pas rien. Là,
il y a le dessert complet. Alors, comment on fait un Dessay ? On prend une pâte feuilletée. On la met, après l'avoir légèrement badigeonnée d'un peu de jaune d'œuf, dans un four de manière à ce qu'elle lève. Ça met 20 minutes. Pendant ce temps, j'ai pris une poire, je l'ai épluchée, je l'ai coupée en petits morceaux. J'ai rajouté un petit filet de citron, un peu de basilic ciselé, un tour de moulin de poivre, tout simplement.
Ah, poivre, et à côté de ça...
Comment saviez-vous que j'aimais le poivre ?
Ben, je sais tout.
Calmez-vous Olivier, elle est mariée.
Et à côté de ça, j'ai fait fondre dans une casserole un peu de chocolat noir, deux tiers de chocolat noir, un tiers de chocolat blanc. J'ai rajouté du lait concentré non sucré pour alléger le dessert, que ce dessert soit léger comme votre voix bien sûr. Et donc j'ai fait un petit montage, voilà, on coupe la pâte feuilletée en deux et on la farcit du mélange de poire. On vient verser, enfin on vient monter par-dessus cette préparation au chocolat que j'ai mis auparavant dans un siphon à chantilly de manière à l'alléger encore. On referme et voilà le Dessay. J'engage Grolet, Michalak et tous les grands pâtissiers à bien noter la recette parce que dès demain on va le réclamer dans leur boutique, je peux vous le dire.
Bravo Olivier Pouls pour cette création et pour ce travail parce que pour une fois vous avez vraiment bossé là.
C'est vrai, et je voudrais que Nathalie le goûte, le valide.
Je peux y aller maintenant,
et voilà,
je peux y aller maintenant tout de suite.
De demain dans les grands pâtisseries du monde entier, on va manger du Dessay quoi. quoi.
Oui, mais il faut qu'elle l'aime, parce que si elle n'aime pas.
Ah, mais si, alors, bah, je le finirai moi-même, qu'est-ce que vous voulez. Si je l'appellerai le pouce, ça aura moins de succès, probablement. Mais...
Si, alors, si, c'est léger.
Qu'est-ce que ça c'est vaut, Nathalie Dessay?
C'est très léger. Non, franchement, j'aime bien.
Ah!
Alors c'est validé ?
C'est validé.
C'est validé. Franchement, j'aime bien.
Nathalie Dessay, le Dessay, le Dessay tout court, voilà. Bientôt disponible chez les plus grands pâtissiers.
Oh ben,
vous avez déposé, j'espère, la recette.
Alors c'est très difficile en cuisine de déposer des recettes, malheureusement, mais on se partagerait les royalties éventuellement si ça venait.
Il pense toujours business. C'est Olivier Pouls qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Son nouvel album, hommage à Claude Nougaro, sort le 15 novembre. Nathalie Dessay reste avec nous pour la grande finale de l'équipe Et Sauvage. Quatre journalistes se sont surpassés pour vous séduire ou pour séduire l'invité. Nathalie Dessay aura-t-elle été bluffée par nos journalistes autant que François Baroin hier?
Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché.
Bon, réponse dans une poignée de secondes.
L'équipe Et Sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Nathalie Dessay, notre invitée aujourd'hui, me le disait durant la coupure pub, elle n'a pas été émue comme ça depuis la première de Manon à la Scala de Milan en 2012. C'est vrai que la tension est immense, l'enjeu colossal. Quatre journalistes, une seule couronne de chroniqueurs du jour. Je crois que l'équation est simple. Des têtes vont tomber, lesquelles? Celles de Fred Goetti, d'Anne Le Gall, de Nicolas Caron ou de Jérôme Lacroix? Attention, dernière possibilité de se distinguer aux yeux de l'invité. Jérôme, une série de mots sans queue ni tête?
L'amour, l'attachement, le câlin, le sacré, la justice.
Pas mal. Ça y est, les votes sont clos. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors c'est très 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 serré, mais c'est Jérôme Lacroix qui remporte les deux points.
Jérôme Lacroix? Ah ben j'allais voter pour lui, ben je vais pas voter pour lui. Non. Je vais accorder mon point à Nicolas Caron aujourd'hui.
Merci.
J'ai aimé cette histoire de romancier qui écrit à votre demande dans Central Park une histoire qui vous est quelque part dédiée, qui vous ressemble en tout cas. On vous rappelle son nom?
Hermelin. H-E-R-M-E-L-I-N.
Hermelin. Et ça se fait par internet aussi, on peut lui envoyer.
Mais il n'envoie pas un mail, il envoie une vraie enveloppe avec un vrai papier.
À l'ancienne, j'espère bien. Donc j'ai donné mon point à Nicolas Caron, mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur, Nathalie Dessay. Attention, votre voix compte triple. Selon vous, qui mérite d'être élu chroniqueur du jour aujourd'hui?
Là, je vais répondre là tout de suite, là maintenant.
Là,
alors, parce que Jérôme Lacroix a répondu à une question que je me posais depuis des années. C'est lui qui emporte.
C'est Jérôme qui triomphe aujourd'hui dans l'équipe Et Sauvage. C'était la 53e journée de l'équipe Et Sauvage. On remercie notre invitée Nathalie Dessay d'avoir joué le jeu. Son album de reprise de Nougaro sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches sort le 15 novembre avant une tournée dans toute la France en 2020. Encore merci Nathalie Dessay d'avoir été avec nous
merci
aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci également à mes journalistes Eva Roch, Anne Le Gall, Nicolas Caro, Jérôme Lacroix, Fred Goetti. L'équipe Et Sauvage revient demain 16h.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.